France Culture.
Chrétien d'Orient, Sébastien de Courtois.
Ce matin, dans Chrétien d'Orient sur France Culture, c'est avec un immense plaisir que nous retrouvons Abed Azriyeh, compositeur et chanteur français d'origine syrienne, traducteur et écrivain. Nous vous connaissons pour votre mise en texte, en musique et même en image de la formidable épopée de Gilgamesh. L'un des textes les plus anciens de l'histoire de l'humanité, celle de cette Mésopotamie antique. Vous êtes venu plusieurs fois dans notre émission pour nous parler de Gilgamesh et des dieux fondateurs. Mais si je vous reçois ce matin, c'est pour que nous évoquions ensemble le très beau livre qui est celui du récit de votre vie. Éperdument, dites-vous, un enfant d'Alep au bord de la Seine. Le texte est magnifique, les phrases ciselées. Un texte passionnant de ceux que l'on garde précieusement dans sa bibliothèque et qui nous fait revivre une partie oubliée de cette immense culture syrienne, puis votre parcours à Paris dans les années 1970 et vos rencontres sur les sentiers de la musique. Un ouvrage qui m'a intéressé par son parfum de nostalgie, ces personnalités du monde musical que je ne connaissais pas et qui ont marqué votre vie. Une sorte de providence, la manière aussi si alerte et amoureuse que vous avez de rendre hommage à notre pays, la France, pour votre accueil, notre culture partagée, vos combats aussi pour faire de votre vie non pas un roman, mais un hymne chanté. Bonjour Abed.
Bonjour.
Alors je vais lire quelques passages, et il y a un passage qui m'a particulièrement frappé, alors je commence un peu par la fin. On est à la page 148 donc, de votre ouvrage « Éperdument ». Je rappelle tout de suite le nom de l'éditeur, la collection Méditerranée, chez Al-Manar. Je vous lis « La création est trace ». L'artiste laisse une trace. Il signifie que la vie est un grand mensonge et qu'elle est beaucoup plus longue qu'il n'y paraît. On invente pour cela des religions et au-delà des paradis. Mais une œuvre artistique qui communique, c'est une éternité instantanée. Qu'avez-vous voulu dire, cher Abed ?
Je pense que l'être humain est immortel. Moi, je ne crois pas qu'il a besoin d'inventer des paradis. D'ailleurs, les Sumériens, si on revient à la Mésopotamie, que vous avez citée tout à l'heure, pour eux, le paradis, c'est avant de naître, c'est le ventre de la mer. Alors que cet archétype s'est transformé à l'envers, à partir de la Bible, c'est devenu après la mort. Alors que l'homme est immortel, puisque l'archétype de l'humanité nous dit que l'homme se reproduit, laisse des traces par des enfants, par des œuvres, par des tas d'éléments, et ces choses-là témoignent toujours de son passage. Mais nous sommes les traces de nos ancêtres, et donc nos ancêtres sont toujours vivants.
Vous êtes né à Alep.
Oui.
Vous avez grandi dans une culture riche, composée, des voisinages, vous appartenez à l'une de ces églises ou de ces nombreuses traditions de chrétiens d'Orient, on en a déjà parlé lors de votre passage dans l'émission. Vous avez cette passion pour l'Antiquité, vous tissez des liens justement avec cette histoire lointaine, mais vous avez des passions au présent aussi. Vous êtes passionné de cinéma, vous êtes passionné de culture populaire, vous êtes musicologue, comment vous arrivez à mener toutes ces vies?
Mais écoutez, quand j'étais enfant de chœur, donc à l'église, il fallait servir la messe en araméen tous les matins, que je ne parlais pas, mais l'arabe est très proche de l'araméen, hein, c'est l'enfant de l'araméen. Et donc, on récitait les prières, on les chantait, c'est la tradition syriaque, et moi j'étais dans une église et une école syriaque. Donc, sans le savoir, inconsciemment, je suis sûrement plein d'empreintes de ces liturgies qui m'ont formé mes premières leçons de solfège, sans solfège. Et par la suite, au même temps, à l'école, il y avait le prêtre qui nous projetait tous les jeudis des films de Charlie Chaplin, de Laurel et Hardy, de Tarzan, Johnny Weissmuller, et moi, depuis l'âge de 3 ans, ma mère m'amenait toujours au cinéma. Toujours. Et à un moment donné, elle m'a dit, quand j'ai commencé à lire et à écrire, elle m'a dit, je vais absolument commencer à aller voir des films européens, occidentaux, américains. Parce qu'elle m'a dit, les films égyptiens, c'est tout le temps la même rengaine. Et donc, du fait que les films là-bas ne parlent pas arabe, mais ils sont surtitrés, donc elle m'a amené avec elle pour que je lui chuchote à l'oreille les surtitrages. Et il y avait des moments où elle me dit, ça y est, c'est bon, j'ai compris. Quand c'est tragique ou dramatique. Et donc, à partir de ça, moi, j'ai pris cette habitude et j'allais au cinéma parce que le cinéma, pour moi, c'était la seule fenêtre pour voyager, le seul avion qui m'amenait partout dans le monde. Et ce n'est jamais fini, même jusqu'à maintenant. Hein. Je suis quelqu'un qui voit tous les jours au moins un ou deux films.
Quels sont les souvenirs que vous avez de la Syrie de votre enfance?
Je pense que la sérénité. Beaucoup de sérénité et beaucoup de sécurité. On avait des voisins juifs, des voisins arméniens, des voisins palestiniens, des voisins qui sont venus d'Antioche, qui étaient annexés par la Turquie à l'époque. Et puis, on cohabitait et nous, enfants, on adorait ça parce que quand c'était les Pâques des Arméniens, on allait manger des pâtisseries arménienne. Quand c'était les juifs, on mangeait des produits, des pâtisseries juives. Quand c'était les orthodoxes, pareil, les catholiques. Donc, pour nous, enfants, les communautés, c'était des conviseries, c'était des fêtes.
Votre première émotion musicale, on comprend, vient de la liturgie, donc ce passé d'enfant de cœur que vous avez, et puis pour ceux qui fréquentent les églises d'Orient, voilà, c'est une liturgie qui est absolument magnifique, qui est chantée, qui est parfois aussi jouée. Vous arrivez à Paris, vous vous inscrivez à l'école normale, et là, vous voyez qu'il y a tout à reprendre d'une certaine manière.
Ah oui, absolument. Et même avant de m'inscrire à l'école Marthe-Noé normale, premier jour, je suis allé à Notre-Dame de Paris. Je les entends chanter. J'ai dit, mais bon Dieu, ils sont pas chrétiens, ces gens-là. Parce que c'était pas la même liturgie. Je me suis dit, stop, il faut tout apprendre à nouveau maintenant. Et grâce à la langue française, je crois que j'ai commencé à naître d'une autre façon. C'est-à-dire, par la langue française, j'ai commencé à lire des œuvres russes, anglaises, espagnoles, allemandes. Et donc, la langue française m'a aidé à être encore plus international. Et ça, c'est une richesse que je n'avais pas avec la lecture de la langue arabe seule.
Dites-nous plus sur cette découverte de cet autre christianisme qui est le christianisme d'Occident quand on vient d'Orient.
Alors, j'ai découvert plusieurs choses. D'abord, par la lecture en français, les premiers pères de l'Église que j'ai lus. Il y a des éditions extraordinaires que moi, en Orient, j'ai jamais connues. J'ai commencé à lire Saint Ephrem, par exemple, les chants hymnes au paradis. J'ai commencé à lire des tas de Saint-Jacques de Sarrougue, etc. Vraiment des grands écrivains. Et puis, la vie des moines, l'anachorisme, Saint-Siméon le Stylite et d'autres. Donc, pendant ce temps-là, il y a eu une sorte de, comment dirais-je, pas de révélation, mais mûrissement interne en moi d'un héritage. Que ces gens-là, qu'est-ce qui leur est arrivé pour se révolter comme ça? Mais au fait, j'ai découvert que le christianisme était une question beaucoup plus de révolte que de soumission. Et c'est ça ce qui m'a beaucoup plu. Parce que la révolte de Jésus, du Christ ou du christianisme, les premiers chrétiens d'Orient, étaient vraiment des insoumis à l'Empire romain, à leur environnement, aux riches. Voyez, par exemple, Saint Jean Bouche d'Or, j'ai lu ses lettres, c'est extraordinaire.
Saint Jean Chrysostome.
Saint Jean Chrysostome, parce qu'il vendait les biens de l'Église pour construire des hôpitaux, c'est quand même, après quand on découvre que les soufis c'était pareil, les soufis musulmans. Donc il y a une sorte de révolte chez tous les croyants à l'époque, les premiers croyants, pour une vie meilleure. On n'attendait pas la politique de qui est venue beaucoup plus tard. Et donc, le Christ, c'est un des plus grands révoltés de l'histoire, pour moi.
Vous êtes musicologue, dites-nous la différence fondamentale entre musique d'Orient et musique d'Occident.
Énorme. La musique d'Orient, elle est d'abord de l'Inde jusqu'à le Maroc, hein, l'Algérie. Elle est monodique, elle est horizontale. Le lien se fait entre le quadruple croche et le triple croche. Alors que la musique occidentale, elle est verticale. c'est entre le mi et le sol, entre le sol et le si. Voilà, c'est très très différent. Et à partir de la, comment dirais-je, du après l'Andalousie, enfin il y a eu une histoire longue avant l'arrivée en Occident, l'Andalousie, elle a formé le premier conservatoire à Cordoue par Ziryab, un personnage, un musicien légendaire. Et pour enseigner la musique, c'était commencer par le texte, ensuite par le rythme, ensuite par les modes, par la musique, par les mélodies. Et tout cela, c'est arrivé dans le sud de l'Espagne, dans tous les pays ibériques, ensuite en France, en Italie, à travers les troubadours, les trouvères. Et on va trouver à partir du 1400, à peu près, les premières suites écrites en Europe, qui vont donner les suites de Bach, de Handel. Parce qu'autrefois, en Europe, il y avait, la musique, c'était un seul mouvement. Et par l'Andalousie, grâce à Ziryab, la musique est devenue plusieurs mouvements, ce qu'on appelait la suite. Et la suite qui est restée en Europe, la suite, donc elle a emprunté la forme andalouse et elle s'est développée avec des génies comme Bach, comme Handel, comme de grands noms. C'est, donc l'Occident a sa grandeur, l'Orient a sa grandeur d'origine. C'est pas du tout la même culture, mais les deux sont magnifiques.
Abed Azriyeh, je vous lis à la page 77. L'art m'est équivalent à la religion et la musique est pour moi une façon de prier. Je ne puis être ni juif, ni chrétien, ni musulman, mais plutôt un être qui a un rapport amoureux avec toutes les croyances. Je suis convaincu que le multiple et l'un ne s'opposent pas. Pour moi, ils vont ensemble.
Absolument, absolument. Moi, quand je suis, par exemple, des fois dans Paris, à pied, fatigué, où il pleut, je rentre dans un temple, n'importe lequel, que ce soit juif, que ce soit musulman, que ce soit chrétien, je me sens bien. Pourtant, je ne sais pas ça correspond à quoi pour moi. Mais je me sentirais dans une salle de concert pareille. Je me trouverai dans une librairie, grande librairie, bibliothèque, pareil. Donc un lieu de connaissance, pour moi, ou de croyance, est exactement la même chose.
Alors vous citez Ibn Arabi plusieurs fois, on oui. sent votre lien, vous évoquez l'Andalousie, vous évoquez le soufisme, hein. Vous faites beaucoup de liens justement avec ces traditions. Votre mère avait une expression absolument formidable pour vous obliger à sortir, c'est-à-dire pour vous faire sortir d'une salle de cinéma ou vous faire sortir de la maison. Elle vous disait « Viens Abed, sortons, allons voir le visage de Dieu ».
Oui, ma mère, elle avait cette expression tout le temps. Parce que être enfermé à la maison, on est loin de Dieu. Parce que Dieu, il est dans l'extérieur. Dans le ciel, la tête des gens, la marche, les boutiques, les magasins, le mouvement. J'ai adoré toujours cette expression. C'est-à-dire sortir, c'est voir Dieu.
Est-ce que vous continuez à vivre dans cet esprit?
Peut-être un peu moins, parce que maintenant je suis beaucoup encore plus solitaire qu'avant. Quand j'étais petit, j'adorais la solitude, j'adorais parce que les gens autour de moi faisaient beaucoup de vacarme, de bruit, et ça m'empêchait de voir les choses. Et aujourd'hui encore plus, mais j'aime les gens beaucoup, j'aime l'extérieur beaucoup, tout en aimant rester seul.
Vous parlez de foi, vous parlez de tradition religieuse dans votre travail, on connaît l'épopée de Gilgamesh, vous avez aussi mis en musique l'évangile de selon Saint Jean. Si je puis me permettre, Abed Azri, de vous poser cette question, où est-ce que vous en êtes par rapport à la foi, par rapport à cette pratique de votre enfance?
Je crois que l'homme ne peut pas vivre sans foi, hein. Mais la foi, c'est pas la religion, ça n'a rien à voir. Vous savez, aimant sa mère, aimant son frère, aimant une femme, aimant un homme, ce qu'on veut, ou ses frères, ou ses amis, c'est de l'amour, c'est tout le temps l'amour. Mais il n'y a pas d'intérêt derrière. La foi, c'est quelque chose de très mystérieux. Alors que la religion, c'est presque comme les impôts. Vous voyez, on est obligé de donner sa part à l'État, et là, c'est une crainte énorme. Vous voyez, Ibn Arabi ou les soufis ne disaient pas « je crains Dieu ». Par exemple, en arabe, le mot « rahib », le moine, ça veut dire l'homme qui a la crainte de Dieu dans son cœur. Alors que les soufis, non, ils ont l'amour de Dieu dans leur cœur. C'est pas pareil. Pour moi, la religion, c'est la crainte de Dieu. Alors que pour la foi, pour moi, c'est l'amour de Dieu. Et Dieu, c'est, comme disait ma mère, c'est à l'extérieur, c'est partout.
Le visage, les gens qui passent.
Oui, oui. La pluie, le son de la pluie, le soleil, le ciel bleu, la mer, tout ça. Et c'est une sorte de, pas de monothéisme, moi je dirais ni polythéisme, c'est universel, quoi. C'est quelque chose de bien universel.
Alors je rappelle le titre de votre ouvrage, Éperdument, un enfant d'Alep au bord de la Seine. Permettez-moi encore de vous citer. Une vision binaire du monde et le refus de l'autre. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, hérité des religions monothéistes. hante les sociétés orientales et constitue une des sources du malheur qui ravage ces pays. On vous sent issu de ces traditions et en même temps en révolte contre cet aspect religieux, cet aspect social d'une certaine manière. Vous pensez qu'il faille procéder à une révolution intellectuelle, une révolution morale ?
Il n'y a rien à jeter, mais simplement il faut comprendre. Moi je pense, je rejoins Ibn Arabi avec sa phrase, il dit « il faut cesser d'être juif, il faut cesser d'être chrétien, il faut cesser d'être musulman, mais plutôt il faut appartenir à la religion de l'amour ». Je pense que toutes ces religions, c'est par des passerelles, elles sont les mêmes, c'est les mêmes archétypes, hein. Depuis Sumer, Babylone, Assur, la Grèce, jusqu'à nos jours, on a les mêmes archétypes. Le Christ, c'est Gilgamesh aussi. Hein. Deux tiers en lui sont divins, un tiers est humain. Et Jésus, c'est le Fils de Dieu et le Fils de l'homme. C'est exactement le même archétype. La Vierge Marie, elle est enceinte, elle a un enfant et elle reste vierge. Ishtar, elle avait ses amants, tous les dieux et tous les hommes, et elle était toujours la Vierge des dieux. Je veux dire, ce sont les mêmes archétypes. Il suffit de comprendre pour dire qu'il n'y a pas de frontière entre les choses. Au contraire, je peux être croyant avec les dieux de Sumer, ou le petit Jésus, ou le grand Jésus, ou Mahomet, ou Jéhovah. Il n'y a pas d'obstacle. Je ne crois pas. Mais les gens qui font des obstacles, ce sont le pouvoir des religions, et non pas la foi humaine.
Lorsque l'autre ne se réduira plus à l'ennemi, on aura un espoir de changer les choses. Et pour cela, les hommes et les femmes ont absolument besoin dans ces pays qui sont le Levant, le Proche et le Moyen-Orient, de séparer l'emprise superstitieuse des lois religieuses sur la société.
Bah oui, les gens ont tellement peur, ils font le Ramadan, ils font le Pâques, ils font le Carême, et ils croient que c'est ça la religion, alors que ce sont des rituels. Les rituels, ce sont des devoirs. C'est comme on fait son service militaire autrefois. Mais ça, c'est pas vraiment la compréhension des choses. Les gens sont tellement vivent dans la peur, au fait, dans l'insécurité, alors que la foi, c'est plutôt quelque chose de très paisible, très serein. C'est pour cela, tout à l'heure, je vous disais, j'aimais beaucoup, dans mon enfance, la sérénité.
Est-ce que vous pensez que le retour justement à ces grands mythes fondateurs, on évoquait ces épopées de Gilgamesh, peut-être justement des solutions pour relativiser les différences?
Beaucoup, moi je trouve. Je trouve plus en plus, on découvre la Mésopotamie dans nos jours, en Orient, en Occident et partout, qui rejoindra les autres mythes du monde entier. On comprendra l'archétype de toutes les pensées, de toutes les religions, parce que nous sommes les descendants de tous les archétypes.
Votre préface est signée par Hubert Haddad, qui écrit de très belles lignes sur votre livre. Jamais plus beau titre que cet éperdument, à la fois substantif et adverbe, qui nous abandonne en toute liberté à la passion d'un homme porté, vous, par les grands défis civilisationnels d'une rive à l'autre de la Méditerranée, à travers ce récit aventureux, magnifiquement composite, où le biographe et la grande histoire humaine s'enlacent au gré d'une réflexion tendue vers le secret musical d'une vie. On connaît votre œuvre, mais en fait, on vous découvre par cet ouvrage. Le fait de parler vous-même a été quelque chose de facile à faire.
Vous savez, ce livre n'a pas été fait en un mois ni en un an. C'est vraiment les réflexions que j'ai laissées de côté comme ça. Puis ils ont grandi, ils sont devenus un livre. J'aurais pu rajouter 3, 4, 5 livres encore, mais non, ça suffit. Ça, c'est important, des réflexions sur les origines de nous tous. C'est pas un livre égoïste, il parle pas de moi en tant qu'individu. Il parle de moi qui descend d'un pluriel, d'un ensemble de monde que nous sommes tous. Et à partir de ça, je donne ma petite réflexion, voilà. Sur la musique aussi, sur la mythologie surtout, beaucoup. Parce qu'il y a des mythes fondateurs dans le livre qui sont traduits en français par moi. Et c'est important de comprendre le paradis des Sumériens, ce que c'est, la descente en monde en bas, c'est-à-dire en enfer, après la mort. C'est important, tous ces mythes, pour mieux comprendre aussi les religions d'aujourd'hui. Le monothéisme a été déformé complètement pour moi. C'est vraiment devenu, par exemple, quand on voit le destin de la femme dans le monothéisme, c'est une horreur de nos jours quand même. Enfin, voir des femmes avec une chaleur de 40 degrés voilées comme ça, c'est pas normal. Je ne comprends pas. Ce sont des choses artificielles. C'est pas la foi, c'est pas la religion, c'est pas l'islam pour moi.
Est-ce que vous êtes tenté de revenir en Syrie ou pas ?
Écoutez, tenté, pourquoi ? Moi, je suis jamais venu en France pour revenir en Syrie. Hein. Le jour où j'ai mis mes pieds à la gare de Lyon, en 65, j'ai cru que c'est mon pays, vraiment.
Mais vous êtes retourné plusieurs fois, je sais, à Beyrouth, oui, à Alep, oui, à Damas, pour oui, des concerts,
parce que j'ai encore mes sœurs, mes frères. Donc j'aime beaucoup les voir de temps en temps. Mais j'ai tellement construit une vie à Paris que je ne peux pas l'échanger contre rien.
Que vous apportez la culture française, une forme d'universalisme ?
D'abord, la langue française m'a aidé beaucoup à comprendre mieux le monde, la pensée française, et puis la multiplicité. Le vin m'a appris beaucoup de choses, la nourriture.
Dont vous parlez, vous citez à Fès plusieurs fois.
La nourriture, la cuisine. Vous voyez, pour moi, au début, quand j'étais, je sais pas, bachelier, lire un texte de Freud, c'est trop sérieux. Alors qu'aujourd'hui, pour moi, manger une pomme ou lire Freud, c'est pareil. C'est le même plaisir. Et ça, c'est la France qui m'a appris ça.
Une forme de philosophie, de
simplicité. Oui, simplicité. Je crois que je suis devenu beaucoup plus simple en venant en France.
Abed Azriyeh, merci beaucoup pour être venu jusqu'à notre émission ce dimanche matin. Je rappelle le titre de votre ouvrage « Éperdument, un enfant d'Alep au bord de la Seine », qui est un magnifique récit, je me permets d'insister. Je rappelle le nom des éditions, les éditions Almanar et la collection Méditerranée. Merci Abed.
Merci Sébastien.
Je remercie François Connac pour la réalisation, Claire Poinsignon et Manuel Couturier pour la technique. Restez sur France Culture, nous retrouvons maintenant le rendez-vous protestant Solae. Bon dimanche. Thank you.